Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
C'est l'histoire d'une folle herbette fraîche, dodue et verte. Un jour, avec ses copines de prairie, elle se retrouva coupée par la serpette du jardinier aguerri. On lui administra ensuite un bain d'eau claire, ce qui, pour une herbette, est loin d'être de la misère. Mais le jardinier semblait vouloir ne jamais l'en sortir, tant et si bien que l'herbette commença à pourrir. Autrefois comestible, attirante et fort chouette, la voilà qui commençait à sentir le caca de mouette. Puis vint un moment où d'herbette il n'était plus question, mais bien d'un jus brunâtre, voire marron. Le jardinier s'en retourna alors en sifflant son petit air. Mieux vaut tard que jamais quand on veut bien faire, filtrant la préparation, il l'a mis en conserve, afin qu'à la prévention, plus tard, elle serve. L'herbette était devenue précieuse, puante et fermentée, certes bien moins verte, mais bien plus recherchée. Moralité, tout ce qui pue n'est pas forcément du caca, et de toute façon, au jardin, c'est bien la merde qui fait les choux gras. Au programme aujourd'hui, les extraits fermentés dans une approche préventive du jardin, peut-être, mais dit comme ça, c'est tout de suite moins joli. Merci de nous tendre néanmoins votre oreille polie. Bonjour
Floem, bonjour.
Bonjour Hélène.
Bonjour Floem.
Et bonjour Marie-Laure.
Bonjour tout le monde.
Qui va s'occuper de nous faire la belle programmation musicale d'aujourd'hui. Mais avant que nous écoutions la belle programmation musicale d'aujourd'hui, c'est le moment des réponses à vos questions, questions que nous prenons sur les réseaux, mais que vous pouvez adresser à questions@radioperma.org. Une question de Christophe Martin. Alors, hello, faut-il que je coupe les rejets des fraisiers? Ils sont en pot sur ma terrasse et je me demande si en les coupant, cela favoriserait la pousse des fraises. Alors, ça coupe, c'est comme les cheveux, en fait, quand on coupe, ça renforce?
Alors, j'ai jamais essayé, mais je pense pas, non. Je pense que ces rejets, il vaut mieux qu'ils les prennent et qu'ils les donnent à quelqu'un ou qu'ils les replantent. Voilà, puis ça fera des fraises l'année d'après.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça permet de créer de l'abondance pour d'autres personnes aussi, parce que souvent, quand on a des très bonnes fraises... Derrière, les gens, ils sont très contents aussi d'avoir des très bonnes fraises.
Oui, il n'a pas dit, si elles étaient bonnes.
Ah oui, c'est pas dit si elles étaient bonnes. Bon, si elles sont bonnes, Christophe, tu peux les donner à tes voisins qui te les rendront bien, probablement, sous forme d'autre chose à un autre moment.
Voilà, où il les repique, et puis après, quand ça viendra à production, ben, il enlèvera à ses plus vieux.
Alors, Fran Ibanez, je voudrais mettre 3 ou 4 poules dans mon jardin, mais j'habite presque en ville avec des voisins. Pas de coq. Certains me disent que j'ai le droit et d'autres que maintenant on a le droit même en ville. Ben non, il y a certains qui me disent que j'ai pas le droit et d'autres me disent que maintenant on a le droit même en ville. Y a-t-il une loi qui est passée pour ça?
Ouais, pour les coqs, oui. Pour les poules, coqs, je pense pas.
Je sais qu'il y avait des lois sur la courbure des bananes, mais...
Je pense que c'est surtout de voir avec ses voisins s'ils sont... Parce que les poules, ça fait pas beaucoup de bruit, hein, donc de voir avec ses voisins si ça leur pose pas de problème, mais...
Et puis en fait, la réponse qu'on pourra lui apporter, elle sera probablement à côté de la plaque, puisque là, il ne s'agit pas question de loi, mais plus probablement du plan local d'urbanisme, de voir ce qui est possible au niveau de sa zone d'urbanisme.
En tout cas, je ne sais pas s'il y a une jurisprudence, mais il y a des gens qui se sont fait interdire d'avoir un coq dans la législation, la loi, quoi.
D'accord.
Alors je ne sais pas si c'était une jurisprudence ou pas.
Donc peut-être qu'il y a encore besoin d'informations, mais à mon avis la première source d'information c'est d'abord la ville, vérifier le plan local d'urbanisme. La plupart du temps il n'y a pas de souci dès lors que vous avez un peu d'espace et qu'il n'y a pas de maltraitance animale, quoi. Parce que mettre des poules en ville, c'est très bien, je le fais, mais d'ici à les mettre sur un demi mètre carré chacune.
Bon. Ah bah non.
Alors, Chloé Thérault, bonjour, un de mes pieds de rhubarbe est en fleur. Est-ce la fin? Va-t-il mourir ensuite ou bien est-ce perpétuel? Bah c'est perpétuel.
Oui, voilà, je te laisse répondre parce que tu as expérimenté.
Bah moi, oui, enfin moi, une année, en fait, j'ai laissé monter ma rhubarbe en fleurs parce que je ne comprenais pas pourquoi on me disait de couper. Enfin, j'aime pas trop faire des trucs qu'on me dit de faire sans savoir pourquoi il faut le faire. Et du coup, j'ai laissé monter ma rhubarbe. Ça a juste arrêté de faire des feuilles, très très peu. Ça a fait des graines. J'ai donc eu mangé assez peu de rhubarbe cette année-là, mais à la fin, le porte-graines, le pied porte-graines, la ramure a un peu séché. Mais l'année suivante, j'avais de nouveau de la rhubarbe, et ensuite j'ai même encore pu la multiplier. Donc non, ça n'a pas d'impact sur la survie de votre rhubarbe, ça a un impact sur la productivité en termes de feuilles et de pétioles à manger dans vos...
Oui, sur l'année, quoi.
Sur l'année, quoi, parce que la plante, elle va passer son énergie à faire des fruits plutôt que des graines, plutôt qu'à faire autre chose, quoi, des feuilles.
Des côtes.
Des côtes, des tiges, des pétioles. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, désolé. Alors, Ertial Chirin qui nous dit « Help, j'ai des humains autour de mon potager, faut-il s'en débarrasser ?»
À la chevrotine.
C'est une question. C'est une question. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on a qui sont de l'ordre du... J'ai des campagnols, comment faire pour les éradiquer? J'ai des chats, comment faire pour les éloigner?
Et les humains, ça peut être adulte ou enfant, parce que ça, c'est tout à fait différent.
On ne les gère pas de la même manière.
Non. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut répondre à cette question, à part de trouver les humains en question et de discuter avec eux.
Ben, moi, je pense que c'est peut-être même la meilleure chose à faire avec ces humains-là. Si ces humains sont attirés, non, mais s'il y a un tropisme, s'il y a une attirance de ces humains-là vers le potager, c'est qu'il y a une énergie qui a besoin d'être libéré quelque part. Donc, bah, tu en parlais de poules. Moi, je sais que mes poules, ça a attiré plein d'humains dans mon jardin, que je cherchais à attirer avant et que j'avais jamais réussi à attirer. Parce que attirer les humains, c'est l'avantage de créer des liens, tout ça. On s'entraide, c'est bien commode.
Ouais. Après, ça, quand on parle des voleurs à deux pattes, c'est pas toujours évident non plus. Quoi,
ah, parce que, les renards à deux pattes, c'est autre chose.
Oui, enfin.
Les renards à deux pattes, c'est autre chose. Quand il s'agit de...
Oui, c'est ça, ça dépend ce que font ces humains. Est-ce qu'ils viennent piquer dans son jardin? Est-ce qu'ils viennent prendre les tomates? Est-ce que.
Ah.
Moi, donc, j'ai vu quand même pas mal de jardins où c'est ça qui se passait. Et après, il n'y a pas d'autre solution que quand même d'échanger avec eux et de voir comment on peut les intégrer dans le jardin, faire des choses plus larges avec eux, etc. Quoi. Sinon, c'est la chevrotine, mais bon. Pas terrible.
Bah après, moi je pars du principe que quelqu'un qui vient manger des salades dans mon jardin, c'est peut-être qu'il en a besoin, et puis que ça fait partie de l'abondance qui circule. Si j'accepte que des limaces viennent boulotter certaines de mes salades, pourquoi pas certaines salades?
Tu peux prévoir et en mettre plus, puis
bah,
voilà
c'est
si
ça.
Si t'en as suffisamment, si t'as un grand jardin, tout
ça. Je peux pas en vouloir aux gens d'avoir envie et de me signaler de cette manière-là que mes légumes
sont
très beaux, très attractifs et très intéressants. Et puis donc, si j'en fais un peu plus, ça part. Et puis voilà.
Ouais, voilà, tu peux intégrer ça dans ta quantité, quoi.
Ça se fait aussi, en fait.
Oui, tout dépend des dégâts, entre guillemets, quoi.
Vincent Raquette, une question que je me pose depuis quelques temps. Existe-t-il des lieux de partage réels où il est possible de se former en permaculture sans que cela ne coûte un os? Genre l'os du bassin, précise-t-il. En dehors des groupes comme celui-ci, où chacun partage ses expériences avec bienveillance sur ce thème, en dehors des émissions de radio. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se former en permaculture sans que ça coûte un os?
Oui. Bah, moi, personnellement, j'ai proposé des stages de jardin, ça coûtait pas... Tout dépend de la valeur de son os, hein, mais en tout cas, c'était accessible. Et en plus, moi, je proposais aux gens qui n'avaient pas les moyens financiers des échanges en nature. Donc, voilà, ça existe, oui.
Et la question qu'on m'a posée, est-ce que c'est pratique ou théorique? Parce qu'une personne a suivi comme ça une formation, elle était assez déçue parce que c'était resté au stade de la théorie. Et donc,
ça dépend, moi je fais toujours moitié, à peu près moitié pratique, moitié théorie, et puis mes collègues aussi...
Ouais, et puis ça dépend ce qu'on appelle la pratique. Parce que moi, je sais que quand on fait des... Avec Radio Perma, on fait des stages de, d'introduction à la permaculture, bah, d'une part, il faut faire de l'introduction, donc il y a forcément un peu de théorie, et puis après, il y a ce qu'on appelle la pratique. La plupart du temps, les gens, ils appellent pratique le fait d'avoir la main dans la terre et de gratouiller de la terre, quoi, en somme. Sauf qu'en pratique, ça, c'est ce qui arrive relativement tard, comme on a pu le voir dans nos séquences d'émissions. Ce qui arrive au tout début de la pratique, c'est souvent l'observation, le design, faire le plan du jardin, etc., et que c'est pas toujours simple, mais normalement
oui, il y a moi je fais toujours la pratique phases. Même pour l'observation,
oui.
C'est-à-dire par exemple des jeux, des petits exercices où les gens vont regarder, observer, avoir une loupe et tout ça. Donc c'est pas de la pratique où on touche à terre, mais c'est de la pratique dans le sens où on est
voilà,
où on
c'est
bouge
ça. Oui,
on est dehors, il y a du physique et on n'est pas que assis à écouter,
voilà.
À écouter.
Mais c'est voilà. Mais effectivement toujours. Moi c'est des choses aussi que j'appelle de la pratique, mais qui correspondent pas forcément à l'attente des stagiaires en termes de pratique. Ils voudraient mais il y a toujours normalement un moment, moi je sais que dans nos stages, il y a toujours un moment où soit on monte un compost, souvent je fais des buts en lasagne, on va voir...
On fait des semis,
des choses, enfin en fonction de la saison et puis de l'endroit où on est. Mais normalement, oui. Et en ce qui concerne le prix, il y a même Radio Perma, normalement on n'est pas trop cher, mais on est... de fait en concurrent avec des gens dont c'est le métier absolu et qui eux sont pas non plus dans les mêmes contraintes budgétaires. La question du prix, ça pose aussi la question de la valeur qu'on donne aux choses, parce que désolé Vincent, mais ça a une valeur de se former. Il y a des gens que ça fait un bout de temps qui travaillent, etc., et avoir une formation de qualité, ça a aussi son prix.
Mais un prix peut être juste. C'est-à-dire, moi, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Et ben, le prix que je demande à chaque stagiaire, en partant sur une base de 10 personnes par groupe, j'ai calculé à 60 euros par personne et par journée. Et j'estime que c'est un prix qui est juste pour moi et c'est un prix qui est accessible aux gens.
Eh bien,
mais il y a des formations qui sont beaucoup plus chères que ça.
On va avoir un débat parce que tu vois,
beaucoup,
moi, en pratique, nous, on est à la moitié de ce tarif-là. Et il y a déjà des gens qui te disent ah, mais c'est quand même très cher, etc. Donc tu vois, ça dépend vraiment. Pour moi, c'est vraiment une question de culture, de qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut pas. Mais nous, on est une assoc, où derrière, on n'a pas les mêmes, on est loi 1900, donc on n'a pas les mêmes charges. Enfin, tu vois. Et en fait, en pratique, une journée de formation en dessous de 60 euros, c'est inférieur au prix juste pour la personne qui travaille.
Parce que t'as que la moitié à la fin de la journée, t'as pas 60 euros
par
personne.
Non, t'as bien moins.
Donc t'as à peu près la moitié après les déductions des charges et tout ça. Donc.
Enfin, vous pouvez aller voir sur ces questions de prix sur apsala.org, on a fait des textes à ce sujet-là. Vous pouvez aussi vous former en woofing, vous pouvez aussi aller échanger votre force de travail contre de l'expérience.
Ou être bénévole.
Voilà, être bénévole sur des jardins, par exemple.
Terre et humanisme, il peut.
Voilà, il y a ce genre de choses. Il y a tout un tas de choses possibles.
Et localement, je ne sais pas où il est, mais localement, s'il regarde les jardins collectifs, qu'est-ce qui se passe comme animation et tout ça, il y a aussi des activités qui sont accessibles. Et après, quand on trouve que c'est trop cher, je pense que déjà, le plus simple, c'est de le dire et de voir comment on peut participer autrement. Moi, j'ai eu des stagiaires, elles faisaient des massages. Je dis, un massage et une journée de formation, c'est très bien, en échange. Ça peut être d'échange d'autres choses. Chaque fois, tout est possible. Il n'y a pas que l'argent, je veux dire.
Dans les MJC aussi, il y a de plus en plus de cours de jardinage, de choses comme ça. Et si c'est pas encore en place, n'hésitez pas à porter l'affaire et vous retrouver collectivement. Ça marchera bien. Bon, allez, c'est la fin de ces questions. On va s'écouter un morceau de l'album « Plutôt tôt ou plutôt tard ». C'est ça, je crois que c'est même le titre du morceau que nous écoutons.
Demain sera notre jour.
Demain, toujours demain.
Demain, tu trouveras l'amour.
Demain, toujours demain.
Demain, la chance tournera.
Demain, toujours demain.
Demain la vie nous sourira.
Demain, toujours demain.
Demain on nous dira demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Oh qu'ils sont nombreux les demain.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain la fille qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui.
Demain, c'est la terre.
C'est promis.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, c'est sûr, on vous l'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, ceci. Demain, cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, 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 j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous. Demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise, demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise, demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise, demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise, demain décourage aujourd'hui.
Demain, 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 demain,
demain, demain, toujours demain.
Demain, 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 demain,
demain, demain, toujours demain.
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 Demain, 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 j'arrête ces promis.
C'était demain, demain, demain. Et pas du tout plus tôt, plus tard. C'était demain, demain, demain. De cette compilation, vous écoutez Couleur FM sur le 97.1. Marie-Laure, pourquoi tu as choisi ce titre-là ou... ça t'a amusé de choisir ça dans ta discothèque?
La musique, les paroles, la musique
une
et les paroles.
Gay, et puis ouais. Voilà, qui, c'est un petit peu aussi contextuel par rapport au changement et les promesses. Ah. Voilà, du gouvernement, etc. Demain, demain, toujours demain. Puis, voilà, il y a un côté comme ça.
Marie-Laure nous accompagne de temps en temps dans cette émission. Elle est riveraine du jardin que nous tâchons de lancer autour de la radio. D'ailleurs, si jamais vous nous entendez et que vous avez envie de rejoindre un chouette projet de jardin à Bourgoin-Jallieu, n'hésitez pas, ça, c'est en cours. Merci Marie-Laure de nous accompagner. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention au jardin, de l'approche préventive. On en parlait un petit peu pendant la pause. En fait, l'approche préventive, c'est ce qu'on fait déjà tout le temps, non, Hélène?
C'est ce qu'on fait tout le temps. Ça dépend qui est le con, quoi.
Alors,
disons que c'est ce dont nous avons parlé de plusieurs fois, quoi.
Ouais.
Mais c'est pas ce qui est fait systématiquement, parce que déjà, quand tu regardes les jardins, quand on regarde en passant en train, en voiture, n'importe à pied, ou ce qu'on veut, on voit plein de terres qui sont à nu, alors qu'en fait, donc ça veut dire que les pratiques les plus courantes, c'est encore pas de penser à la prévention, penser à la plante, penser au sol, qui est vraiment la base de la santé de la plante. On voit quand même beaucoup de terre qui est comme ça, exposée au soleil, à la pluie, à tout ce qu'on veut.
Bah, c'est ce que dessinent les enfants, basiquement, quand on leur demande de dessiner un potager. C'est ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens quand ils pensent à un potager. Ils pensent à des salades isolées les unes des autres, effectivement.
Parce que pour l'instant, c'est quand même ça, la majorité. C'est pour ça que je te dis, le « on » n'est pas forcément... toujours la même approche. Après,
chaque chose en son temps, c'est pas pour autant qu'il faut insulter les jardiniers.
Oh, mais j'insultais personne. Bon. Non, mais donc effectivement, moi je pense que la santé des plantes, c'est comme la nôtre. Hein. Ça commence par travailler sur le terrain dans lequel la plante va pousser pour que la plante puisse s'épanouir, et surtout au niveau de ce qu'on voit pas, c'est-à-dire au niveau racinaire. Parce qu'on n'y pense pas non plus forcément. eh ben, en ayant des pratiques avec la terre qui permettent que la terre soit vivante, déjà, donc couvrir la terre, prendre des outils qui soient des outils à dents, apporter du compost qui soit bien, enfin, qui soit adapté au niveau maturité.
Des outils à dents plutôt que des outils à plat.
Des outils, oui, pas prendre des outils à faire plat, ouais.
Parce qu'en fait, ça fait des mottes ou des choses comme ça.
Ça coupe surtout, ça tue les, enfin, ça tue,
ça coupe les racines.
Ça coupe les animaux. Les racines, puis des animaux qui vivent dedans. Et puis si en plus on inverse les couches du sol, ben on tue tout ce qui va se retrouver en anaérobie au fond. Enfin bon.
Et on ne le dira jamais
déjà,
assez.
C'est la base, quoi.
On ne le dira jamais assez. Un ver de terre coupé en deux ne fait pas deux vers de terre, mais juste un ver de terre mort.
Qui est mort, oui. Donc voilà, ça c'est vraiment la base, c'est que la plante puisse bien s'enraciner, même si on la sème, hein, qu'elle puisse bien développer son tissu racinaire, installer les liens entre ses racines et le sol, parce que c'est ça qui va faire qu'elle va bien se nourrir et qu'elle va être autonome. Et c'est vraiment le parallèle avec un organisme vivant, même comme le nôtre, hein, c'est de penser à tout ce qui va faire l'autonomie, l'hygiène de vie, on va dire, l'hygiène de la plante, et qui va faire ensuite que la plante va être résistante et va se débrouiller par elle-même. Quoi. C'est vraiment ça, la base. Quoi.
Donc, il n'y a pas que le sol ou que le terrain. Il y a l'eau aussi.
Mais déjà avant ça, il y a aussi les semences qu'on va choisir. Est-ce qu'on va prendre des espèces et des variétés qui sont adaptées là où on vit, ou bien est-ce qu'on va vouloir absolument faire quelque chose qui est exotique et qui, du coup, va être déjà affaibli au départ. Tu vois, après,
ça, c'est des questions qui reviennent souvent quand on nous pose des questions.
Ouais.
Est-ce que je peux avoir des tomates? J'habite en Belgique. Je dis oui, mais t'as intérêt à avoir une serre.
Oui, alors après, question de cohérence aussi. Hein. Mais je veux dire, ça va compter. Mais le support, la terre, la vie de la terre, etc., c'est ça qui va être la base. Parce qu'après, même l'arrosage, selon la terre qu'on a et qu'on a mis en place et le compost qu'on a mis, etc., l'eau ne va pas circuler de la même façon. Donc, si on n'a pas mis les bonnes conditions au niveau de la terre qui va porter les plantes, et ben même l'arrosage, ça va influencer aussi. Quoi. Donc ça, les semences qu'on choisit, l'environnement qu'on va choisir. Et après, est-ce qu'on va associer les plantes, les rotations, enfin tout ce dont on a déjà parlé, mais qui sont vraiment les bases de la bonne santé de nos plantes, quoi, des cultures.
Il y a la question... Ben, quand tu parles d'association, rotation, la question de la diversité, y compris à l'intérieur du sol, en ce qui concerne la vie du sol. Mm-hmm. Parce que si on a un sol qui est riche de vie et riche d'une biocénose du sol qui est très diverse, en fait, les pathologiques, mais presque... C'est un jeu de mots. Bon, ça n'a pas...
Je ris, je ris.
Oui, non, ils n'auront pas la place
pour se développer. Oui. C'est toujours la question comme chez nous, quand on prend des probiotiques, des choses comme ça, pour jouer sur notre flore intestinale, pour simplement renforcer la flore intestinale, juste en rapportant des éléments supplémentaires de vie.
Oui, et cette biodiversité, elle est valable dans tout ce qui vit, c'est-à-dire au niveau de la terre, et pas que au niveau des animaux, c'est-à-dire il y a les algues, il y a les champignons, et tout ça, c'est pareil, il y a une diversité à l'intérieur de chaque espèce, et puis il y a tout ce qu'on va installer, nous, à l'extérieur, les haies, les arbres, les plantes, tout ça, il y a une diversité qu'on va soit trouver naturellement, soit qu'on va mettre, nous, et qui va permettre à ce qu'on appelle les auxiliaires d'être présents. Et donc, si jamais on a des... parasite ou un problème qui prend un peu de place, ça va se neutraliser du fait qu'il y a des auxiliaires. Donc c'est vrai que c'est tout cet environnement du jardin, il est hyper important, que ce soit à l'extérieur, enfin au-dessus et au-dessous. Quoi.
Pour reprendre le contre-exemple de la salade cultivée au milieu de rien, ça n'existe pas en fait, une plante cultivée au milieu de rien. Une plante à l'état sauvage
qui pousse toute seule,
ça n'est jamais une salade, ça n'est jamais un pied de maïs, ça n'est jamais quelque chose de ce type-là. Enfin,
ça peut être des arbres dans le désert,
ça peut être
ou sur des rochers, ou dans des milieux hostiles. Quoi.
Mais la plupart du temps, en fait, il y a vraiment une compagnie de plantes qui vient avec, et quand on dit oui, il faut associer les plantes, mais c'est juste que c'est ce qui se passe à l'état ordinaire, et que quand on prend une prairie, c'est une entité globale composée de différentes sous-entités, d'espèces, de variétés, etc. Et en fait, c'est ce truc-là qui est stable, avec des variations d'une année sur l'autre. La prairie peut être
beaucoup plus stable sur le moyen terme, on va dire, mais les espèces varient à l'intérieur, mais la prairie, elle est stable par la communauté de végétaux qui sont là présents.
Oui, après, elle peut évoluer, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Par contre, c'est vrai que ce qui est important, c'est cette diversité des écosystèmes, d'avoir un maximum d'écosystèmes. La prairie, c'en est un, l'arbre, c'en est un, la mare, c'en est un, et d'avoir toujours, de veiller toujours à avoir un maximum de micro-écosystèmes, même si c'est tout petit. Hein, c'est pas, les gens disent juste un balcon, mais c'est pas grave. Sur un balcon, on peut créer un écosystème. Et d'avoir le plus grand nombre possible d'écosystèmes différents pour avoir des lisières, pour avoir de la promiscuité, du mélange, de la diversité, etc. Et c'est ça qui va faire que le jardin, enfin les plantes seront en bonne santé. Quoi.
Plus il va y avoir un déséquilibre, et plus en fait ce déséquilibre va tendre à se rééquilibrer par quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir à un moment ou à un autre dans le jardin.
Oui, donc, disons s'il y a de la place libre, elle va être prise, pour le dire un peu autrement, c'est comme dans la santé humaine, on va dire, il y a une niche, il y a une place qui est libre, elle va être prise par le plus toxique, par le plus virulent, et il va prendre cette place-là et il va envahir tout. Quoi. Alors que s'il y a un équilibre, il y aura un petit peu de tout, y compris des pathogènes, parce qu'on a tendance à vouloir les éradiquer, ce qui est une erreur, mais donc il va y avoir un équilibre qui va se faire, et qui va neutraliser et permettre à personne, en fait, de dominer les autres.
Bon, et puis du coup, en ce qui concerne ces auxiliaires, on peut en parler encore une minute, les auxiliaires ordinaires du jardin, il y a ceux qu'on connaît très bien.
Oui, comme les coccinelles, les sirfs, les oiseaux, tous les oiseaux, par exemple, d'où l'importance de mettre des arbres à différentes hauteurs, y compris de garder des arbres morts, par exemple, pour que les oiseaux viennent nicher chez nous, dans le jardin. Ouais. Après, il y a quoi ? Les carabes, qui sont très importants, parce qu'ils vont contrôler les limaces.
Les limaces.
Les escargots. Les hérissons, ça c'est un peu plus dur. C'est un peu plus sauvage, on va dire. C'est que j'oublie encore, je ne sais pas.
C'est qu'on a comme faune auxiliaire. Les lézards.
Les lézards. Bah, après, tous ceux qui vivent dans l'eau, que ce soit des poissons ou des crapauds, les batraciens, etc. Les serpents.
Les salamandres, quand il y en a.
Salamandres, puis après aussi, il y a les serpents. Enfin bon, après, la plupart des animaux, on va dire, sont des auxiliaires, finalement.
Oui, tout jardine, c'est un des principes de permaculture, tout jardine.
Et nous, notre boulot, c'est de mettre en place des... Oui, les vers de terre. Ouais. C'est de mettre en place cet environnement-là pour que tous ces animaux soient là. Et aussi, un autre point que je trouve important, c'est l'aspect qualitatif. Parce que ça, on voit beaucoup en ville maintenant, les gens, ils font du compost sans contrôler forcément la qualité du compost. Et c'est bien, je ne dis pas le contraire, que faire du compost, c'est important. Mais de contrôler la qualité, c'est important, parce que ce qu'on va mettre dans la terre après, si on apporte un compost qui n'est pas de bonne qualité, soit qui est trop acide, soit qui est trop XY, vraiment, qui n'est pas de bonne qualité, eh ben, il va aller entraîner au niveau du sol dans lequel il va être mis un déséquilibre aussi, et ce déséquilibre peut favoriser des pathogènes au niveau de la flore du sol. Donc, c'est important de penser à cette qualité à tous les niveaux. Quoi. Et surtout, moi, je trouve le compost. Quoi.
La qualité... j'ai pas parlé de l'eau encore. Enfin, on n'a pas tellement parlé de l'eau, mais ça peut être utile d'en parler aussi.
Alors, l'eau, on pourra parler de la qualité peut-être après. Non, mais par contre, la quantité, oui, c'est important. Parce que, quand je disais tout à l'heure, l'enracinement des plantes, c'est quand même ça qui va faire qu'elles vont être en bonne santé. Et bien, si on arrose trop, ce qui est souvent le problème des jardiniers, ils arrosent quoi qu'il se passe, ils viennent au jardin, ils arrosent. Alors ça, moi, ça m'a toujours sidéré. Il vient de pleuvoir, n'importe, ils arrivent au jardin, on prend de l'arrosoir, ils arrosent. On ne sait pas pourquoi. Bon. Et bien ça, du coup, ça asphyxie les racines. Et c'est ce que tu disais dans ton introduction. Quoi. Et puis après, du coup, les racines qui sont asphyxiées, ben, elles pourrissent, elles se délitent et la plante ne peut plus fonctionner correctement. Quoi. Et c'est vraiment là que se font tous les échanges nutritifs de la plante, au niveau des racines, la rhizosphère et avec les mycorhizes, etc. Tous ces échanges qui se font avec le sol. Et c'est la plante, en fait, qui doit pouvoir faire des demandes en fonction de ses besoins. Et la flore bactérienne va répondre à ses besoins. C'est dans ce sens-là que ça marche. Ce n'est pas nous qui allons dire « Tiens, aujourd'hui, tu as l'air fatigué. Tu prendrais bien un peu de magnésium, un peu de machin, non ?»
Oui, c'est une approche franchement différente où finalement, le préventif prend beaucoup plus de place que le curatif. En fait, on est en permanence en train d'essayer de donner aux êtres vivants les conditions pour lesquelles ils ont des millions d'années d'évolution. Donc... de fait, on fait attention à ce qu'on fait, et de cette manière-là, le vivant vote d'une certaine manière pour notre action en fonction de sa présence et de son développement harmonieux et en bonne santé. C'est plus dans en termes de pratique et de comportement qu'il faut réfléchir quand il y a des feuilles qui jaunissent ou des choses comme ça.
Et en termes d'analyse de nos pratiques à nous, parce que si une plante est malade, en général, c'est parce que nous, on a fait quelque chose qui l'a rendue malade. Dans la mesure où c'est un jardin ou c'est un milieu artificiel, c'est pas la nature. Même dans la nature, on peut voir des maladies, hein, mais dans notre jardin, on sait que c'est nous qui avons fait quelque chose de travers. Donc après, on peut chercher quoi.
Ouais. Allez, on va se faire une petite pause musicale et on va partir dans l'espace.
Je suis venu te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, qu'un petit futur, tout petit futur, dans ce vrai désert. Je suis venu te dire qu'on a plein de choses à se dire, tout autant à faire, cet hélicoptère, moi il me fait pas peur. Je suis venu te dire un décor en hauteur et haut en couleur, c'est fou ce qu'il m'attire, ce grand ascenseur. Je suis venu t'offrir un ticket pour ailleurs, ce billet de retour, c'est pour tout à l'heure. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé. Et je veux reprendre ma place là où je l'avais laissée, là où l'on s'était caché. Ce matin j'ai vu l'avenir, il nous fait un sourire, m'a chargé de dire qu'il fallait revenir, qu'on devrait revenir. J'aimerais réinscrire sur la carte du ciel ton joli sourire plus haut que Babel. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé. Et je veux reprendre ma place là où je l'avais laissé, là où l'on s'était caché, là où l'on s'était fâché. Je suis venu te dire, non pas que je m'en vais, ni que tu m'en as trop fait, ni que je suis au regret, ni que je suis au regret. Je suis venu tenir mon discours sur l'amour, il fait plus mon affaire ce petit détour. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé. Et je veux reprendre ma place là où je l'avais laissé, là où l'on s'était caché.
Couleur FM 97.1. C'était l'espace de l'album Plutôt plus tard, sectionné aujourd'hui pour vous par Marie-Laure. Nous parlons approche préventive des soucis, on va dire ça, dans le jardin. On a parlé un petit peu du terrain en première partie. Là, on va parler un petit peu plus des, on va dire, des stimulations, des choses. Des remèdes liquides, je peux pas dire pharmaceutiques parce que ça va faire un peu mal, mais des remèdes à base de plantes, c'est même pas des remèdes en fait, puisqu'on est
non,
dans une approche
n'est pas malade,
préventive.
Pourquoi tu veux pas dire extrait fermenté?
Si, parlons d'extrait fermenté. Ce que l'on appelait avant les purins.
Voilà, mais oui, mais...
Mais les purins, ça pue.
D'abord, ça pue alors que c'est pas obligé. Et puis, comme il y a une association qui s'est créée pour défendre ce qu'on appelle les produits naturels peu préoccupants pour qu'ils soient autorisés dans
Comment
le commerce.
S'appelle-t-elle?
PNPP. Aspro PNPP.
Aspro PNPP.
Ouais.
Si c'est pas un nom de pharmaceutique, ça.
Oui. Et donc, c'est vrai que si tu vas défendre un produit en disant, voilà, je viens pour soutenir les purins et tout ça, ça fait pas classe. Ça, ouais, alors qu'est-ce très fermenté, ça révèle plus la réalité qui est que c'est une fermentation, qu'il y a des critères à respecter et que c'est pas obligé de puer.
Produit naturel. Ouais,
peu préoccupant.
Peu préoccupant.
Et donc ça, ça avance au niveau de la législation, pour le coup. C'est
Est-ce qu'il y avait des problèmes de cet ordre-là avant? On pouvait pas faire.
Oui, la guerre de l'ortie. T'as pas entendu parler de la guerre de l'ortie?
Ben non, je veux bien que tu me parles de la guerre de l'ortie.
La guerre de l'ortie. Donc
j'étais trop jeune. T'as connu la guerre. J'ai pas connu la guerre de l'ortie.
Non, mais c'est parce que c'était interdit et du coup. Non, il y a eu plein de problèmes, eh ben, en particulier avec Éric Petiot qui a beaucoup expérimenté sur les arbres, mais pas que. Et en fait, il a eu des problèmes avec les fraudes, enfin plein de soucis. Et à la suite de ça, il y a
avec
eu.
Avec les fraudes, la répression des fraudes, tu veux dire? Oui, d'accord.
Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup de. Donc l'ortie était interdite parce que, bon, pour différentes raisons, en tant que. Pour le vendre et tout ça, en tant que produit justement stimulant, préventif et tout ça.
Stupéfiant.
Presque. Hein. Et du coup, ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de recettes d'extraits d'ortie qui ont circulé partout sur Internet et tout ça, et ça a fait finalement de la pub pour des recettes naturelles en préventif et en curatif.
Mais c'était quand ça?
C'est déjà une quinzaine d'années,
oui,
ouais, c'est comme ça.
Oui, et ça a tenu assez longtemps avant qu'on puisse.
Oui, bah même maintenant,
nouveau.
C'est compliqué. Hein,
c'est ouais. Même maintenant, mmh. Oui.
C'est pour ça qu'il y a une association qui s'est créée pour défendre ces produits qui coûtent rien finalement et qui n'ont pas le droit forcément d'être vendus, fabriqués, vendus, parce qu'on ne peut pas mettre dessus qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est... Mmh. Voilà. Mais avant peut-être de rentrer dans les extraits fermentés, oui. Juste un petit mot sur les rotations, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Oui. Et en fait, quand. Alors, le mieux, c'est de le faire systématiquement, c'est-à-dire changer de famille au moins à chaque fois. Mmh. Ou changer de polarité,
d'une
c'est-à-dire passer ou à chaque
culture
à l'autre, quoi. Mm-hmm. De passer d'une racine à, ou la, n'importe, hein, de passer du fruit à la racine, à la fleur et à la feuille. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, de tourner. Et si jamais on a un problème quelconque sur n'importe quelle culture, à ce moment-là, ça devient obligatoire, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de germes qui vont rester au niveau du sol et qui sont présents, qui ont une capacité de résistance très grande et qui vont ressortir un jour ou l'autre, quoi. Mm-hmm. Mais les rotations, c'est quand même un des moyens de prévention qui est important. Après, bon, il y a les engrais verts, les associations, tout ce qu'on a déjà évoqué. Quoi. Voilà.
Tout ce qui est interaction, allélopathie, autres plantes.
Voilà, protection réciproque et tout. Quoi.
Allez réécouter notre splendide émission association-rotation que nous avions fait avec Meïna Vernet.
Avec Meïna, ouais, oui, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Et alors après, sur l'eau, parce que donc les extraits fermentés, on va en parler plusieurs fois, mais il y a quand même des... Donc, extraits fermentés, ça veut dire qu'on va vouloir une fermentation. Donc, quand on veut faire du yaourt ou du saucisson ou je sais pas quoi, du pain, on respecte des critères pour que ça fonctionne. Ben là, c'est pareil. Et dans les facteurs de réussite, il y a la qualité de l'eau qui va être vraiment importante. Mmh. Donc, si on a de l'eau de pluie, ben on fait avec de l'eau de pluie. Si on n'a pas d'eau de pluie, on va se débrouiller pour donner à l'eau les qualités, pareil, dont on a parlé déjà l'autre fois, mais au moins d'acidifier un petit peu l'eau, parce qu'il vaut mieux une eau légèrement acide que trop basique, ou que basique. Donc ça, après prendre la plante qu'on veut ramasser ben, au bon stade, parce que selon le stade de la plante, les effets ne seront pas les mêmes, donc on prend au stade qui est indiqué, et puis de peser. Au moins une fois, enfin même, le mieux c'est à chaque fois, mais après si on a le même récipient, à la même plante, on sait qu'à tel endroit dans le récipient, ça va être le bon poids, quoi. Mais sinon, en tout cas, c'est des critères aussi importants pour réussir l'extrait fermenté.
Ça c'est un truc qui est important, je pense que c'est une approche qui a une forme d'exigence de vouloir travailler les extraits fermentés.
Les plantes, ouais.
C'est pas un truc au petit bonheur la chance. On va mettre deux trucs dans 10 litres d'eau et puis voilà, ça va faire ça et puis bloc pouf. C'est un petit peu plus précis que ça pour avoir les effets qu'on veut.
Voilà, si enfin, on veut l'effet.
L'effet attendu. Et cette histoire de bon stade, elle est compréhensible même pour nous. Quand on veut manger de la salade, avant qu'elle soit montée, ben elle n'est pas amère. Et puis quand elle est montée, elle est amère. Ça montre juste
qu'elle contient pas
les mêmes choses. Donc effectivement, quand on dit des jeunes pousses d'ortie, ce n'est pas des vieilles pousses d'ortie.
Oui. Oui, et puis la qualité de l'eau et le poids, parce que souvent les gens ils mettent ça comme ça et puis enfin, très approximatif, parce que ce sont des recettes qu'on se transmet, qui sont connues, voilà, et tout ça. Du coup, on s'affranchit un peu de ça. Et donc, c'est un peu une erreur, parce que du coup, on n'a pas les effets escomptés, quoi.
Ouais, ça me rappelle ma grand-mère, quand je lui demandais, ben, comment tu fais ta mousse au chocolat? Ben, tu vois, tu mets des œufs, du chocolat, tu mélanges, et puis voilà. Sauf qu'elle, en fait, toutes les mesures, elles étaient dans sa tête. Alors, tu vois, mais alors, tu mets combien de sucre? Ben, juste ce qu'il faut. Oui, d'accord. Mais ça fait combien? Ben, pour que ce soit bon. Mais non, mais ça fait quoi?
Bref,
ben,
ça dépend.
Tu
sucré ou pas trop.
C'est sucré ou pas trop. Et c'est la même chose avec les extraits fermentés. En fait, c'est les recettes qui sont transmises, qui semblaient être à vue d'œil ou à vue de nez, mais qui étaient à un nez affûté quand même.
Alors, après, voilà, par rapport au nez, à l'odeur et tout ça, si on arrête la fermentation, parce que donc ça doit fermenter, donc on doit le mettre à un endroit où on passe souvent déjà, pas le mettre au fin fond du jardin où on va tous les 15 jours.
Dans votre salon!
Devant la fenêtre de la chambre à coucher. En tout cas, un endroit où on passe tous les jours, et puis le couvrir un petit peu, le mettre en presque anaérobie, parce que c'est pas une fermentation aérobie comme par exemple le compost, c'est une fermentation limite anaérobie. Donc il faut se débrouiller pour mettre les bonnes conditions.
Donc bien fermer.
La bonne température. Ben voilà, soit bien fermer si c'est à ras-bord, soit mettre quelque chose posé par-dessus le liquide si jamais le récipient n'est pas plein, mais qu'il y a un petit peu d'air qui passe, et puis tous les jours faire un petit geste, pas tellement pour faire rentrer de l'air, mais plus pour voir s'il y a des bulles ou pas. Et donc quand les bulles sont là, c'est que la fermentation a démarré, et si les bulles, le jour où on voit qu'il n'y a plus de bulles, et bien tout de suite on enlève les plantes qui sont dedans, qu'on ne reconnaît plus, hein. On les enlève, on les met au compost où on veut, et on filtre et on arrête la fermentation. Et là, si on respecte bien ça, il n'y a pas de raison que ça sente mauvais. Quand ça sent mauvais, c'est quand justement on ne va pas trop s'en occuper tout le temps, enfin pas tous les jours. Et, ou bien on voit qu'il n'y a plus de bulles, on dit, ah bah tiens, un de ces jours, il faudra que je vienne m'en occuper, et puis on fait autre chose, et puis 3-4 jours après,
on
revient.
Et on passe à un autre stade de
fermentation. Et, voilà. Et là, ça commence à pourrir.
Méthanique, voilà. Ammoniacale.
Et donc, c'est plus la bonne fermentation. Donc ça, c'est important. Quel que soit l'usage après des extraits fermentés, c'est toujours le même mode de fabrication, quoi. Et donc tout ça, c'est vraiment à respecter pour qu'après, on ait l'effet qu'on souhaite, quoi.
Et puis, bah, du coup, l'effet qu'on souhaite... Il y en a plein des effets possibles. Enfin, on peut se servir des extraits fermentés pour beaucoup de choses.
Oui, mais là, on est dans le préventif.
Alors, restons dans le préventif.
Donc, dans le préventif, on va s'en servir pour... En fait, il va y avoir deux effets. On va utiliser différentes plantes. Hein, donc, le plus connu, c'est l'ortie, la consoude, la bardane, le pissenlit. Enfin, ce sont des plantes communes, en général. Hein, pas chercher sur la lune. Hein. Et donc, ces plantes-là, elles vont avoir deux effets. En fait... Elle va avoir
En fait, c'est que c'est pas chercher sur la lune, mais c'est pas non plus la peine de les chercher au magasin de jardinage.
L'autre jour, j'ai vu du
purin d'ortie à 13 euros le litre, 13 euros le demi-litre.
Bah, parce que maintenant, il a le droit d'être vendu.
Il a le droit d'être vendu, donc on a le droit de se faire
arnaquer.
Ah ben...
Oui. Après, c'est l'approche globale des choses. C'est-à-dire, moi, ce que je dis souvent aux jardiniers, c'est qu'on peut se débrouiller, être autonome dans son jardin. Hein. Pas besoin d'avoir toujours le porte-monnaie ouvert pour acheter quelque chose. Mais
donc ces plantes communes, il y avait des plantes communes qui n'avaient pas besoin d'aller chercher sur la lune.
Oui, mais c'était pas ça.
C'était pas ça que tu voulais dire.
Tu voulais dire
qu'à terme préventif, on pouvait s'en servir pour.
Ah oui, non, voilà, qu'il y avait deux effets. Quelle que soit la plante, elle va avoir des vertus, on va dire, différentes. Chaque plante a des vertus particulières. Mais ce qui va être valable pour toutes les plantes, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va pulvériser un extrait fermenté après l'avoir dilué, etc., on va le pulvériser sur nos plantes. Ça va agresser la plante en question, notre culture. Du coup, cette plante, elle va fabriquer des substances de défense parce qu'on l'agresse. Et du coup, quand elle va être vraiment agressée par quelque chose de dangereux pour elle, elle aura déjà ces substances, ces molécules seront déjà présentes et elle va pouvoir tout de suite réagir, quoi. Et ça, c'est aussi important que ce que va apporter, par exemple, l'ortie en minéraux ou la consoude ou autre chose, quoi. Ça va renforcer la résistance de la plante.
Oui, un peu comme un vaccin.
Non.
Non. Non, t'aimes pas les vaccins, c'est ça?
Non, j'aime pas les vaccins, mais c'est, indépendamment de ça, c'est pas le même truc parce qu'on a. Un vaccin, tu inocules, par exemple, je sais pas quoi, un microbe désactivé, alors que là, non. Là, tu renforces l'immunité de la plante, si tu veux, c'est comparé. Mais tu la renforces en, comme si tu prends plutôt de la vitamine D ou des trucs qui vont t'aider toi-même à te défendre tout seul contre n'importe quel. Donc, c'est pas un vaccin, non?
D'accord, ok.
Non.
renforcement de l'immunité.
C'est renforcement de la résistance de la plante.
Éducation immunitaire.
Non, oui, non. Là, là. Voilà. Parce qu'après, sinon, si tu voulais vacciner les plantes, ça veut dire que tu prendrais, ouais, je sais pas quoi, toutes les maladies et tout. C'est pas pareil.
Soyons précis, après tout.
Bah oui, parce qu'en plus, l'être. Et puis, ce que je trouve moins important, c'est que justement, tout ce qui est vivant, ça a la capacité de s'auto-guérir ou de se guérir tout seul, et que c'est là-dessus qu'on se base. C'est pas sur le fait d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va permettre de se guérir. Donc la plante, elle a cette capacité de résistance, elle l'a déjà, et si on a travaillé dans de bonnes conditions, qu'on a fait tout ce qu'on a dit et tout ça, ben elle a toutes les chances d'être en bonne santé. Après, par contre, si on la repique ou si on lui fait des choses qui vont la déséquilibrer, donc c'est nous qui avons fait quelque chose qui la déséquilibre, là, on va lui faire quelque chose, un traitement préventif pour re-augmenter sa résistance et qu'elle passe le cap parce qu'on l'a obligée quelque part à quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, qu'elle voulait pas.
Un câlin, quoi.
Voilà.
Non, c'est ça aussi, j'ai faux.
Non, mais voilà, en tout cas, nous, on l'a déstabilisée, donc du coup, on contrecarre en faisant ça, mais on n'est pas obligé de faire des traitements préventifs. Hein. On le fait surtout quand on, par exemple, les tomates ou n'importe quelle plante qu'on repique. La plupart des plantes, c'est mieux de ne pas les repiquer, par exemple. C'est pas les affaiblir.
Vaut mieux les mettre en pleine terre.
Les mettre directement en pleine terre. Après, si les tomates, poivrons, tout ça, on n'a pas le temps, donc on va les repiquer. Donc, quand on les repique, là, on va leur faire un extrait fermenté pour justement les stimuler un peu au niveau de la résistance et puis de la croissance, quoi. Mais sinon, on n'est pas obligé. Et sinon, on va le faire quand on voit que les plantes sont un peu flagada, qu'elles ont eu un coup de chaud, un coup de froid, un coup de je sais pas quoi, là, on va leur faire ça aussi. Mais pas systématiquement. Et la plupart des traitements préventifs, on ne les fait pas plus de 3 fois sur la même culture. Parce que ça peut aussi, comme si nous on était toute l'année sous vitamine, ça a plus d'intérêt et affaiblir à force. Oui, voilà.
Et ça joue sur la terre.
Ça dépend. Non, il y en a qui jouent sur la terre, sur la flore du sol, et il y en a qui jouent sur la plante elle-même. Par exemple, l'ortie, ça va jouer sur la croissance de la plante. Alors que la consoude va plus jouer au niveau du sol, la bardane aussi, donc ça dépend des plantes. Qui est vraiment typique pour et qui est vraiment absorbée par la plante elle-même, par les feuilles de la plante, c'est l'ortie, quoi. Même si on tombe sur le sol, c'est pas grave, ça, mais c'est pas spécifiquement pour le sol. Alors que la consoude, la bardane, ça c'est vraiment pour le sol. La prêle aussi, qui est pour les contre les champignons plutôt.
On parle juste après la pause musicale de recettes, peut-être de choses encore plus détaillées. Allez, on écoute les bancs de l'album, plutôt tôt ou plutôt tard, une compilation.
Bonjour, excusez-moi, je cherche un kiosque dans le parc.
Les rayons du soleil, ces soirées automnales sont longues et légères dans les allées du parc. Zénith va du temps, mon esprit t'accompagne. Sur le kiosque on dit Prévert, hier on jouait Mozart, les amoureuses bécotent au mépris des pancartes. Ils ont la main verte, tous les buissons savent ça. Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs pour s'installer comme ça? Donne la clameur des huettes de la mini-fanfare qui sous les grands mélèzes invite le traînard, flottis indolente à emboîter son pas. Comme les portes toutes se ferment, mieux que des automates, sans joie mais sans malaise, des gardes fouillent le parc. Des fois qu'on néglige le rituel vespéral. Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs? pour y rester comme ça. Faut-il qu'elle aime les bons? Faut-il qu'elle aime les bons? Faut-il qu'elle aime les bons pour s'agripper comme ça?
Couleur FM 97.1, vous êtes dans Couleur Terre et vous venez d'écouter Les Bancs. Et si on faisait un extrait fermenté d'ortie, Hélène? Comment on fait ça? Et puis surtout, pourquoi on ferait ça?
Pourquoi? Eh bien, là, pour le coup, c'est en préventif. Et donc, pour les deux choses qu'on a vues tout à l'heure, pour apporter les minéraux, parce que quand il y a une fermentation, il y a donc une fragmentation des molécules de départ et une recombinaison. Et donc, l'extrait fermenté, il est toujours plus riche que la plante de départ. Donc, déjà, l'extrait fermenté d'ortie, donc, je vous ai donné tout à l'heure, mais je peux redonner pareil pour l'ortie. Donc, on prend un kilo, donc on prend l'ortie quand elle est fraîche, quand elle est jeune, pardon, et on prend les sommités, c'est-à-dire on ne prend pas forcément toute la plante.
Comment on reconnaît qu'elle est jeune, justement?
Avant qu'elle fleurisse. D'accord. Même si on ne voit pas, ce n'est pas des vraies fleurs, mais ça fait des petits boutons et tout ça, donc on la prend avant. Et soit on a beaucoup d'orties, on peut faucher et puis on prend tout, soit on n'en a pas beaucoup et on prend les 6 feuilles du haut, et comme ça on les prend et on peut les reprendre encore après, ça va repousser, quoi. Donc ouais, on prend ça.
Un bon kilo.
Un kilo. Ouais.
Car il est bon.
Voilà.
Un kilo.
Il sera bon. Et donc, 1 kg pour 10 litres d'eau. Donc, l'eau, comme on a vu tout à l'heure, éventuellement acidifiée avec un peu de vinaigre blanc, de citron, petit lait, enfin, ce qu'on a. Et donc, on met ça dans un récipient, donc selon on a besoin, ça peut être en plastique. Et si jamais le bidon, mettons, n'est pas plein, on pose dessus un plastique un peu épais sur lequel on fait un trou au milieu. Et comme ça, ça permet que l'air ne circule pas, mais qu'il y en ait un tout petit peu au milieu. Et on met le couvercle encore par-dessus. Et on pose ça à l'ombre d'un arbre, quelque part, pas en plein soleil. Et puis donc, tous les jours, on va soulever le couvercle, on va faire un petit geste avec un bâton. Et le jour où ça commence à faire des bulles, on sait que ça commence à fermenter. Et ensuite, selon la température extérieure, en 3-4 jours, votre extrait peut être fini. Et si par contre, il fait un peu frais, ça peut prendre 10 jours, 15 jours. Ça sera beaucoup plus long. Et donc, on laisse comme ça, on passe tous les jours avec notre bâton, et dès qu'on voit plus de bulles, on enlève les plantes, on filtre, et si on n'en a pas besoin tout de suite, on le met dans une bouteille opaque, et puis...
Ouais, ça fait beaucoup de bouteilles quand même, on a bien dit...
Ah, ça dépend comment on a fait, on n'est pas obligé d'avoir fait 10 litres, parce qu'un kilo pour 10 litres, ça fait... je laisse calculer, parce que je me... les 0,100 grammes par litre, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc t'as pu faire une bouteille.
Ouais.
Voilà, donc il faut que ça soit à l'abri de la lumière. Il faut bien filtrer donc avec une passoire. Je ne sais pas comment on appelle ça, une petite passoire.
Ou une étamine, ou à travers un
quelque chose de très fin pour qu'il n'y ait plus de débris organiques dans la bouteille. Et puis on ferme bien, on remplit bien, on ferme bien et on met dans une cave ou au frais, quoi. Et si on en a besoin tout de suite, donc on va le diluer à 10%. Et on va donc pulvériser, c'est mieux que d'arroser parce qu'on prend moins de produits. Et comme là, pour l'ortie, ça va être absorbé par les feuilles, la plante, en fait, elle absorbe plus par le dessous des feuilles. Donc, on va pulvériser au-dessous des feuilles. Et par contre, n'importe quel extrait qu'on va faire, ça ne remplace pas l'arrosage. C'est-à-dire qu'on va dire, là, la plante est ultra sèche, on va passer un extrait d'ortie dessus, ça risque de la griller, quoi. Donc, il faut que la plante soit déjà, soit après une pluie, soit... Ça ne remplace pas l'arrosage.
Oui, c'est vraiment...
Donc, on va...
L'idée, c'est d'apporter
traitement.
Ce qu'il y a dedans.
C'est pas
l'eau. D'apporter l'eau.
C'est pas l'eau qui nous intéresse. Après, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, c'est que ça sera valable pour toutes les préparations, y compris curatives, c'est qu'on peut dynamiser ce qu'on va pulvériser, c'est-à-dire qu'on va, dans le seau, on va mélanger dans un récipient, et on va tourner pendant une vingtaine de minutes, on va tourner dans un sens, après dans l'autre, pour dynamiser le mélange. Et du coup, ça va... faire, ça va potentialiser, ça va être plus puissant. L'ortie sera plus puissante comme ça.
D'accord. Si tu le fais à quel moment?
Juste avant de le pulvériser.
D'accord. Okay.
Et donc l'ortie, ça c'est spécifique à l'ortie, il est vraiment absorbé par la feuille. Donc il peut y en avoir sur le sol, mais il faut qu'il y en ait sur les feuilles. Mmh. Après il y a la consoude, donc, qui est très utilisée aussi, mais qui n'est pas une plante sauvage. Donc elle, on peut la prendre tout le long de l'année, il n'y a pas de problème. Et on fait les mêmes doses. Et elle, ça va être plus pour le sol. Après, il y a la bardane aussi. Alors, en général, c'est les mêmes doses. Hein, donc, je ne redonne pas.
Ouais, à chaque fois, c'est
1 kg pour 10.
1 kg ouais. pour 10 litres.
Voilà. Et
ensuite, une dilution à 10.
Et après, voilà, la dilution, elle peut varier. Par exemple, le pissenlit, lui, il va beaucoup jouer sur la structure du sol, sur le sol. Mm-hmm. Et bien, c'est 1 kg pour 10 litres. Et après, on le dilue à 20%.
D'accord. Donc, c'est 1 pour 5.
Voilà.
C'est une dose de pissenlit, c'est une dose de macération. Pour d'extrait fermenté pour 4 litres d'eau.
Voilà. Mmh. Et là, du coup, on parle de faire sécher les plantes, c'est-à-dire que quand on en a besoin, par exemple, l'ortie, on en a besoin souvent au début, quand on repique et tout ça. Donc, normalement, il y a eu des orties avant, mais on n'a pas forcément eu le temps. On peut soit garder l'extrait fermenté pendant un an, ça ne perd pas de valeur, soit on peut faire sécher les plantes, et puis 24 heures avant de les utiliser, on les fait tremper, et du coup, après, on reprend la dose... Parce qu'on n'a pas forcément la place de stocker tous les extraits fermentés qu'on aura fabriqués. Hein.
Est-ce qu'il vaut mieux stocker un extrait fermenté ou est-ce qu'il vaut mieux stocker la tisane?
Ça dépend de l'organisation. Moi, j'aime mieux stocker les produits.
Les bouteilles, parce que c'est plus
prêt ouais, parce que à j'ai de la place, quoi, voilà. Parce que j'ai de la place. Voilà, puis après, tu n'as plus qu'à le faire. Mm-hmm. Mais on peut faire comme on veut. Hein.
D'accord.
Alors après, bah, je peux peut-être lister toutes les plantes là, qui sont là sous mes yeux, donc je sais pas tout par cœur, hein, je vous rassure. C'est juste les plantes que moi, je n'utilise pas, par exemple.
C'est un tableau qu'il y a dans « Les plantes au secours des plantes, Purin d'ortie et compagnie » aux éditions de Terrain de Bernard Bertrand, Jean-Paul Collert et Éric Petiot aux éditions de Terrain, disais-je, oui.
Voilà. Donc ça, moi, je m'en sers beaucoup, quoi, donc, Et donc là, il y a différentes plantes qui servent en préventif, donc il y a l'achillée, la bardane, on en parlait, la camomille, la consoude, la fougère, l'ortie, pissenlit, le souci, la tomate et la valériane.
Ah, la tomate.
Comment on appelle ça?
Les gourmands.
Les gourmands, voilà.
Oui, j'avais entendu parler de ça et du coup, ça stimule quoi?
Lui, il stimule la croissance des haricots, des choux, du persil, des oignons et de la tomate.
Oui, ça, en fait, c'est
avec... De toute façon, c'est stimulant, là, on est dans les préventifs.
C'est ce qui va... En plus, ça va plutôt... C'est les plantes, étonnamment, c'est peut-être pas étonnant, mais qu'on met bien en association avec la tomate, typiquement les choux.
Ah oui, les haricots, choux, persil, tout ça.
Oui, ça va plutôt bien avec...
Ouais. La valériane aussi, c'est une plante qui est très intéressante. La valériane sauvage, hein. D'accord. Et donc qui stimule, qui est aussi dans les plantes stimulantes. Et après, il y a une plante qui est, on va dire, à cheval entre les deux, mais qui est beaucoup plus efficace en préventif, c'est la prêle, puisqu'elle va servir à tout ce qui est maladie cryptogamique. Et en fait, on va faire une décoction, donc du coup, c'est beaucoup plus rapide.
Toujours quand, à 1 pour 10
Non, la valériane, on trouve plein de dilutions différentes, mais souvent, c'est 5 ou 6%, enfin, c'est beaucoup plus, moins dilué. Et c'est une décoction, c'est-à-dire qu'on met la plante dans l'eau froide, on chauffe l'eau et on laisse bouillir une vingtaine de minutes, parce qu'en fait, dans la prêle, ce qui nous intéresse, c'est la silice, et elle est enfermée dans les cellules. Il faut que les membranes éclatent. Explose, quoi. Ouais. Alors après, il y a des gens qui font aussi en macération, mais moi, j'aime mieux faire en décoction. Et comme ça, on l'a tout de suite. Si on voit, parce que les maladies cryptogamiques, ça va très vite.
Ouais.
Si les conditions sont comme ça, là, comme en ce moment, où il fait orageux, il fait chaud et humide, les champignons, ils se régalent, donc ils vont vite se développer. Et par contre, le mycélium, il est au niveau du sol, donc on va la pulvériser sur le sol. Et pas sur la plante. Enfin, on peut en mettre sur la plante, mais l'essentiel, c'est vraiment sur le sol et on sera beaucoup plus efficace en prévention qu'en curatif. Quoi.
D'accord. Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Ça tire à sa fin, mais on reprendra cette discussion, je pense, parce que c'est quasiment incontournable. Non, mais j'en entends beaucoup parler.
En tout cas, oui. Et puis après, oui, comment on fait aussi dans le curatif? Ben, la prêle, c'est à cheval entre les deux, donc on pourra en reparler quand on parlera du curatif aussi.
Ok. Eh bien, merci beaucoup.
Voilà.
Merci, Floëm.
Merci beaucoup.
Et à la prochaine fois, c'était Couleur Terre, une émission extraite grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère, une émission préparée par Titanou Ben et avec Laurent Forcheron à la technique, animée par Flo Msev de Radio Permaculture, avec Hélène Hollard et aujourd'hui Marie-Laure. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions. Et Hélène pointe son livre.
Oui, on n'a pas parlé des bouquins qui est intéressant.
On n'a pas parlé des bouquins, mon Dieu, et dire que nous n'avons plus de temps. Eh bien, attendez la prochaine émission et nous vous ferons une recension pour une bibliographie de rêve. Couleur Terre, cultivons la vie.
Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Flo Msev, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.